Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Encore Heureux. Robert Louis Stevenson est un écrivain écossais. Maître du récit d'aventure comme du conte fantastique, il est l'auteur de trois chefs-d'œuvre, L'île au trésor, L'étrange cas du docteur Jekyll and Mr. Hyde et Voyage avec un âne dans les Cévennes. Robert Louis Stevenson naît le 13 novembre 1850 à Édimbourg, dans une famille bourgeoise calviniste. Fils et petit-fils d'ingénieurs spécialisés dans la construction des phares maritimes, sa voie semble toute tracée. Et pourtant, jamais il ne sera ingénieur. Le métier ne l'intéresse guère et il ne jouit pas d'une santé suffisante pour aller inspecter les phares sur le littoral comme le faisait son père. Il a sans doute hérité cette constitution fragile de sa mère, Maggie. Celle-ci souffre d'une maladie pulmonaire et de troubles nerveux. Incapable de s'occuper de son fils à temps plein, plusieurs nourrices sont embauchées. Mais c'est la dernière, Alison Cunningham, surnommée Cummy, qui marquera le jeune Louis sa vie entière. Cummy veille sur le petit Stevenson, dont les nuits sont fiévreuses, pénibles, entrecoupées de terreur. Elle le distrait pendant les longues journées où il reste au lit. Elle lui lit la Bible et des récits épouvantables. Elle lui raconte l'histoire de l'Écosse, ainsi que des contes populaires remplis de fantômes et de revenants. Un petit Écossais entend beaucoup parler de naufrages, de récits meurtriers, de déferlantes sans pitié et de grands phares, ainsi que de montagnes couvertes de bruyères, de clans sauvages et de covenantaires pourchassés. Toute sa vie, Robert Louis Stevenson a fait des cauchemars, des rêves intenses. Il disait que dans le grenier de son cerveau logeaient de petites créatures qui s'activaient la nuit. Il les appelait ses brownies. Des petits lutins producteurs de scénarios bruts, sans morale, qu'il pouvait ensuite retranscrire. Stevenson avait une vie le jour et une autre la nuit. En décembre 1852, il tombe gravement malade. Ses parents déménagent dans une maison jugée plus saine. Hélas, la demeure se révèle encore plus humide que la précédente et Louis rechute. Les années qui suivront seront un calvaire pour l'enfant. Rhume, bronchite, pneumonie, fièvre et infections pulmonaires se succèdent. Ce n'est qu'en février 1857 qu'un médecin fait le rapprochement entre l'humidité de la maison et la santé de l'enfant. Les Stevenson déménagent à nouveau. La nouvelle demeure est plus saine et plus confortable que la précédente, mais il est trop tard. Louis gardera une grande fragilité. Pour améliorer sa santé et celle de sa mère, il fait de nombreux voyages vers le sud ensoleillé. Après l'île de Wight, ce sera Menton et l'émerveillement à 12 ans des ciels bleus du Cap Martin. À l'école, Louis se montre solitaire. Sa santé précaire l'empêche de jouer avec les autres. Il est chétif, rêveur, il a du mal à s'intégrer aux bandes de gamins braillards et bien portants. Écolier intermittent, il dévore les romans de Scott et de Dumas, les récits de pirates. Sa maladie va créer en lui le besoin de transposer son amour passionné de la vie dans des récits optimistes, romanesques et fougueux. Les études ne le passionnent guère. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est apprendre à écrire. Il travaille sur une pièce de théâtre, il collabore à la rédaction d'un magazine, il entreprend d'écrire un roman avec en toile de fond le soulèvement covenantaire de 1666 dans les Pentland Hills. Son père, à la lecture de ses premiers brouillons, qualifie le travail de raté et l'encourage à abandonner la voie de la fiction au profit d'un simple récit historique. Louis, pour lui faire plaisir, retravaille son roman pendant tout l'automne. En récompense, son père fait imprimer l'œuvre à 100 exemplaires chez un libraire d'Édimbourg et rachète la totalité du tirage. À 17 ans, prédestiné à perpétuer la dynastie des Stevenson, Louis entre à l'université d'Édimbourg en section sciences et technologies pour y préparer un diplôme d'ingénieur. Il s'applique peu aux études. La même passion l'anime encore et toujours, la littérature. Je devais finir par écrire un roman. Inutile de demander pourquoi. Chaque homme naît avec ses manies. La mienne, depuis ma plus tendre enfance, a été de jouer à combiner des événements imaginaires. Il mène une vie dissolue, qui scandalise sa famille et ses professeurs, une vie de bohème dans les bas-fonds d'Édimbourg. En 1871, il abandonne ses études d'ingénieur. Son père, terriblement déçu, le réoriente vers des cours de droit. Reçu à l'examen du barreau en 1875, sur un malentendu, Louis n'endossera jamais la robe. Le droit, il l'a appris par cœur, 3 mois avant l'examen, sans rien y comprendre. L'examinateur lui a posé une seule question et il a débité le cours magistral à la virgule près. Très impressionné, le professeur ne lui a rien demandé d'autre. Il ne s'est pas rendu compte que le jeune étudiant en face de lui, à l'air si assuré, ne comprenait pas un traître mot de ce qu'il déclamait. En 1872, Stevenson fréquente le club LGR, Liberty Justice Reverence, fondé avec son cousin Bob, une société d'étudiants en rébellion qui prône l'athéisme et le rejet de l'éducation parentale. Louis annonce l'année suivante qu'il a perdu la foi. Son père lui écrit « Je préférerais que tu sois mort plutôt que tu renies le Dieu auquel toute ta famille croit. » Le scandale familial est à son paroxysme, la rupture avec les conventions totale. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. En 1876, lors d'un séjour en Seine-et-Marne, Robert Louis Stevenson rencontre Fanny Osborne, une artiste peintre américaine de 10 ans son aînée, séparée de son mari et mère de 2 enfants. Fanny est une femme spéciale. Tireuse d'élite, ancienne chercheuse d'or et d'argent dans le Nevada, elle roule ses cigarettes à cheval d'une seule main. Le coup de foudre est immédiat. Ils veulent se marier, mais Fanny n'est pas divorcée de son mari. En 1878, elle repart en Californie pour obtenir le divorce. Stevenson reste sans nouvelles d'elle pendant plusieurs mois. Il craint qu'elle n'ait changé d'avis. En plus, il s'est disputé à nouveau avec son père, qui menace de lui couper les vivres s'il persiste dans cette idée de mariage. Déprimé, il part s'isoler au Monastier-sur-Gazeille, en Auvergne, et depuis cette localité, avec pour seul bagage quelques effets personnels et un sac de couchage, il marche, inlassablement, en compagnie d'une ânesse, butée, en chaleur, nommée Modestine, sur laquelle il tape à bras raccourcis. Il est vrai que Modestine n'est pas sans lui rappeler le caractère de Fanny. 12 jours plus tard, il atteint la petite ville de Saint-Jean-du-Gard. Chaque jour, il note le récit de sa journée. Le livre qui naîtra de ses notes, « Voyage avec un âne dans les Cévennes », provoquera un véritable engouement pour le voyage. Un chemin de randonnée est même créé au nom de l'auteur, le chemin de Stevenson. Le voyage, assurément, est thérapeutique. « Dehors, guéri », écrit l'écrivain. Vous me dites que c'est l'artiste inconscient en moi qui m'a poussé au voyage. La division n'est pas exacte. J'ai en moi 6/10 d'artistes et 4/10 de chercheurs d'aventure. À sa mère, Louis envoie cette lettre. « Ma chère maman, tu ne dois pas te sentir blessée par mes absences. Tu dois comprendre que je serai plus ou moins un nomade jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux pas savoir à quel point j'en ai eu envie autrefois. À quel point je regardais les trains en partance et j'étais là, qui désirais si fort partir avec eux. » En 1879, malgré l'opposition de sa famille, Stevenson s'en va rejoindre Fanny en Californie. Sans argent, malade, il traverse l'Amérique dans des wagons aussi inconfortables que des wagons à bestiaux. Il arrive chez Fanny dans un état pitoyable, quasiment mourant. Il ne doit son salut qu'à l'attention dévouée de l'Américaine, qui reste 6 semaines à son chevet. Les parents Stevenson, affolés par l'état de santé de leur fils, acceptent son mariage. Les noces ont lieu à San Francisco, puis le couple part en lune de miel dans une mine d'argent désaffectée. En août 1880, les Stevenson sont de retour en Écosse. Mais le climat pluvieux est néfaste à Louis, et son médecin lui interdit de sortir. Quelques années plus tard, l'écrivain voyageur se rend à Hyères dans un chalet appelé Solitude. Il écrit « Ce coin, notre jardin et notre vue sont subcélestes. Je chante tous les jours avec Bunyan, le grand barde. Je réside près du paradis. Heureux, je le fus une fois. Et ce fut à Hyères. » En 1884, Robert Louis Stevenson rencontre l'écrivain Henry James. Stevenson a 35 ans. La publication de L'île au trésor vient de le rendre célèbre. Henry James en a 42, et bien qu'il ait déjà derrière lui plusieurs textes majeurs, sa réputation littéraire reste confidentielle. Apparemment, ce sont deux écrivains que tout oppose. Stevenson, l'Écossais pure souche, champion du roman d'aventure au style épuré, et l'Américain, émigré à Londres, qui n'aime rien tant que l'ambiguïté, le secret et les jeux de miroir. Mais chacun admire l'autre, et tous les deux sont passionnés par l'art de la fiction. Ils discutent autour de ce simple mystère qu'est de raconter une histoire. Au fond, ce qui rapproche Stevenson et James, c'est la rupture profonde avec la société de leur temps, une rupture existentielle, douloureuse avec la famille, la société bourgeoise, la marque de beaucoup d'écrivains. En 1887, après le décès de son père, Stevenson part aux États-Unis. Grâce au succès de L'étrange cas du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, il est accueilli comme une star par la presse new-yorkaise. Il passe l'hiver dans les monts Adirondack, à la dure, et au printemps, il décide d'effectuer une croisière en Océanie. Il visite les îles Marquises, les îles Gilbert et les Samoa. Début 1890, sa santé se détériorant, il s'installe définitivement dans les îles. Il achète une parcelle de jungle à quelques kilomètres au sud de la capitale des Samoa. Il s'investit beaucoup auprès des Samoans. Lors d'une guerre civile en 1893, il prend leur défense contre l'impérialisme allemand. Les indigènes bâtissent en son honneur une route menant à sa plantation. Il devient même un chef de tribu, appelé respectueusement Tusitala, le conteur d'histoire. À l'âge de 44 ans, subitement, Robert Louis Stevenson meurt, victime d'un accident vasculaire cérébral. Sa mère, Maggie, inconsolable, annonce la mort de son fils à sa sœur. Ma chère, comment puis-je t'annoncer cette terrible nouvelle? Mon fils adoré a été brusquement rappelé à Dieu hier soir. À 6 heures, il allait bien, avait de l'appétit pour le dîner et aidait Fanny à faire une mayonnaise. Soudain, il s'est pris la tête à deux mains et a dit « Oh, que j'ai mal !» Puis il a ajouté « Est-ce que j'ai l'air bizarre ?» Fanny a dit que non, elle ne voulait pas l'inquiéter. Elle l'a aidé à gagner la salle où elle l'a installé dans le fauteuil le plus proche. Elle nous a demandé de venir et je suis arrivée tout de suite, mais il avait perdu connaissance avant que je sois près de lui. Et il est resté assis pendant 2 heures. À 8h10, tout était fini. Ses boys se sont rassemblés autour de lui et les chefs de tribu sont arrivés avec de belles nappes dont ils ont recouvert le lit. L'un d'eux a pleuré. Tusila est mort. Nous n'avons plus personne. Aux obsèques, 400 Samoans se relaient pour porter son cercueil au sommet du mont Vaea, face à la mer, comme Stevenson l'avait souhaité.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Robert Louis Stevenson était aussi un amateur de musique et un compositeur. Il jouait du piano, du sifflet et de la flûte. Il composait des musiques pour ses poèmes, et en adapter d'autres à des mélodies déjà existantes. La plus connue de ces adaptations étant « Sing me a song of a lad that is gone », ici interprétée par Stephen Riddle sur une musique de Victor C. Johnson.
Sing me a song of a lad that is gone, say could that lad be I? Merry of soul, he sailed on a day over the sea to sky. There was a stern rum on the port, high gone the starboard bow. Glory of youth glowed in his soul, where is that glory now? Sing me a song of a lad that is gone, say could that lad be I? Merry of soul, he sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there, give me the sun that shone, give me the eyes, give me the soul, give me the lad that's gone. Sing me a song of a lad that is gone, say could that lad be I? Merry of soul, he sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, highlands and seas, mountains of rain and sun, all that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lad that is gone, say could that lad be I? Merry of soul, he sailed on a day over the sea to sky, over the sea to sky, over the sea to sky.
Moins connu que l'île au trésor ou que l'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde, il y a ce petit ouvrage d'une vingtaine de pages paru en 1877 dans le Cornhill Magazine, un essai modeste au titre gentiment provocateur, Une apologie des oisifs. En voici un extrait. Aucun devoir n'est plus sous-estimé que le bonheur. L'autre jour, un gamin, pieds nus et en haillons, dévalait la rue en courant derrière une bille, avec un air si guilleret qu'il mettait tous les passants de bonne humeur. L'une de ces personnes, qu'il avait délivrée de pensées particulièrement noires, arrêta le petit et lui donna quelques sous en ajoutant ceci. « Vois ce qu'on gagne, parfois, à avoir l'air heureux. Pour ma part, je soutiens ceux qui encouragent les enfants à être souriants plutôt que pleurnichards. Je n'ai pas l'intention de payer pour voir des larmes, si ce n'est au théâtre, mais je suis prêt à récompenser largement la bonne humeur. Je préfère trouver un homme ou une femme heureux qu'un billet de 5 livres. Leur côté rayonnant attire la bonne volonté et leur entrée dans une pièce donne l'impression qu'on vient d'allumer une nouvelle bougie. Peu importe qu'ils puissent démontrer ou pas la 47e proposition. Ils font mieux, ils démontrent par la pratique le grand théorème de la viabilité de la vie. Par conséquent, si l'on ne peut être heureux qu'en étant oisif, restons oisifs. Il s'agit d'une des vérités les plus incontestables de tout le corpus moral. Examinez un moment à moment, je vous en conjure, l'un de vos affairés. Il sème la hâte et récolte l'indigestion. Il fait fructifier une grande quantité d'activité et ne reçoit en fait d'intérêt qu'une forte dose d'aliénation mentale. Ou bien il fuit farouchement la société de ses semblables et vit en reclus dans un galetas en pantoufles et avec un encrier de plomb pour toute compagnie. Ou bien il fréquente les gens en coup de vent et avec amertume, dans un spasme de tout son système nerveux, pour décharger sa bile avant de retourner travailler. Peu me choque qu'il travaille bien, ou beaucoup. Cet homme est une plaie pour les autres. Car au nom du ciel, pourquoi tant d'agitation? Qu'un homme publie 3 ou 33 articles par an, qu'il finisse ou non son grand tableau allégorique, le monde n'en a cure. Les rangs de la vie sont bien serrés, et même s'il tombe 1000 personnes, d'autres sont toujours prêtes à s'engouffrer dans la brèche. Lorsqu'on disait à Jeanne d'Arc qu'elle ferait mieux de rester à la maison pour se consacrer à des tâches féminines, elle répondait qu'il ne manquait pas de jeunes filles pour broder et aller au lavoir. Il en va de même de vos dons, que vous croyez si rares. Alors que la nature se soucie si peu de la vie individuelle, pourquoi nous berçons-nous de l'illusion que la nôtre est si importante? Supposez que Shakespeare ait été assommé par quelques nuits sans lune. Le monde n'en aurait pas moins suivi son train, tant bien que mal. La cruche serait allée au puits, la faux au blé et l'étudiant à ses livres, et personne n'aurait souffert de cette perte. Il n'y a pas tant d'œuvres au monde, à bien y regarder, qui valent une livre de tabac aux yeux d'un pauvre. Hélas, 3 fois hélas, prenez la chose comme vous voudrez, mais il n'existe pas d'individu dont les services soient indispensables. Atlas n'était qu'un homme en proie à un interminable cauchemar. Et pourtant, vous voyez des marchands qui, à force de labeur, amassent une grande fortune pour faire aussitôt banqueroute. Des écrivailleurs qui écrivent leurs petits articles jusqu'à ce que leur humeur devienne insupportable à tout leur entourage. Eh bien, des jeunes gens s'épuisent à la tâche et sont emportés dans un corbillard orné de plumes blanches. Cette petite boule tempérée sur laquelle ils jouent leur farce est-elle le centre, le pivot de l'univers? Il n'en est rien, bien sûr. Alors, les desseins pour lesquels ils ont sacrifié leur précieuse jeunesse ne sont peut-être que chimères ou méfaits. La gloire et les richesses qu'ils briguent ne viendront peut-être jamais, ou leur importeront peu, en définitive. Et ils sont, tout comme le monde qu'ils habitent, si insignifiants que l'esprit se glace à cette seule pensée. Chers auditeurs, merci. Très bonne rentrée à tous, et à bientôt sur Radio B, en direct ou en podcast. Bye bye!
Gardens heading out west for the Lothian Road. I leave the new stuff deep in his pocket, wrapped up in his problems to keep away the cold. Gruesome spirit haunts the dockyard, the only man working documentary crews, shooting film as the lines get longer, as the seams run out, as the oil runs dry. George inspires in the fires of Grange.
blind indifference, greed and apathy sowed way back in our history. The fish are few and the harbors are empty, the keels now rotten, the oil-slit shores. The sheep are gone and the farms deserted.